Du rego. C'est parti. Alors, bonjour tout le monde. Faites-vous exprès pour être loin de même? J'ai eu envie tantôt de vous partager toutes sortes de choses que j'ai vécues récemment, mais malheureusement, je ne peux pas vraiment tout faire. Alors, je vais me limiter au message que j'ai été mandaté de faire sur 1 Pierre 3. Alors, vous savez, le titre de mon message ce matin, c'est Le plan de Dieu pour une vie épanouie. Qui d'entre vous ne veut pas être heureux? Y a-t-il quelqu'un? Alors, ça, c'est basé sur le texte qu'on va regarder ensemble. Je n'ai pas inventé ça, vous allez le voir. Alors, quand on fait une recette de gâteau, bien, c'est important, si on veut réussir notre recette, de suivre en fait la recette. J'ai une de mes sœurs qui avait fait une erreur, elle avait fait un gâteau avec un cramage au café. Et puis dans la recette, c'était marqué une tasse de café. Alors elle a pris une tasse de café instantané, puis elle a embarqué ça dans sa recette. Comprenez, ça aurait dû être une cuillerée et non une tasse au complet du concentré. Alors le gâteau a fini aux poubelles parce que franchement, c'était pas mangeable. Alors, ben, comment? Non, ça m'a été raconté. J'étais content de ne pas être là. Alors, le but de mon message ce matin, basé sur le texte de 1 Pierre 3, c'est j'aimerais qu'on réalise qu'en dehors du plan de Dieu, c'est-à-dire la recette que Dieu a pour nous, c'est impossible d'avoir une vie vraiment et pleinement épanouie. On va lire ensemble le texte de... Oups. On va lire le texte de 1 Pierre 3 à partir du verset 8. Le début du chapitre, Pierre nous dit que les femmes doivent être comme ci, comme ça. Et puis, il y a toute une série d'exhortations tout à fait terre à terre dans ces versets-là. Et arrivé au verset 8, il dit enfin. C'est pas enfin. Pfiou! Non, non, c'est enfin la dernière étape importante que j'ai à vous expliquer ce matin. C'est Pierre qui dit ça, au fond. Eh bien, verset 8, enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez pas le point le mal pour le mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie, voilà la recette du bonheur, et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? D'ailleurs, même si vous souffrez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ, le Seigneur étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il a été prêché aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. On va prier encore. Seigneur, on vient de lire ta parole et c'est certainement ce qui est le plus important d'avoir été dit ce matin, c'est ce qu'on vient de lire. Mais j'aimerais, Seigneur, demander avec mes frères et sœurs ici que tu nous guides et nous remplisses de ton esprit pour que nous puissions peut-être encore mieux comprendre ce que nous venons de lire. Alors, merci de conduire, de nous encourager, de nous guider, Seigneur, à travers ce texte des Écritures. Aide-moi d'être clair. Aide aussi chacun d'avoir les oreilles, l'esprit bien disposé, Seigneur, pour qu'on puisse saisir encore un peu mieux ce matin ce que tu nous dis dans ta parole. Et c'est pour la gloire du Seigneur Jésus et conformément à sa volonté que nous prions ainsi. Amen. Excusez ma voix, je m'aperçois qu'elle s'en va sur le bonhomme. Alors, mon plan, c'est relativement simple, là. Comment être béni et épanoui? Mais d'abord, il est question d'avoir une bonne attitude dans le texte, une bonne réaction, de bons standards, être conscient que Dieu nous voit. Deuxièmement, comment être épanoui dans un monde hostile? Et finalement, comment être épanoui malgré la souffrance? Alors, comment être béni et épanoui? Dans les versets 4 à 12, 8 à 12, pardon, Pierre va donner quatre moyens pour recevoir la bénédiction. Et c'est intéressant de constater que ces quatre moyens-là sont directement liés dans les rapports que les chrétiens doivent avoir les uns envers les autres. Ça montre que pour Dieu, les relations, c'est important et même notre bonheur en dépend. Alors, tu veux être béni? Ben, tu dois avoir une bonne attitude. Et cette bonne attitude, l'apôtre Pierre la décline en cinq différents points. D'abord, il parle d'avoir une même pensée. Avoir une même pensée, ramer tous ensemble dans la même direction. Et vous savez, on a de la misère, nous autres, les chrétiens, à comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une même pensée. Le but ultime de chacun d'entre nous, c'est de glorifier Dieu. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? C'est ça qu'on veut, la gloire de Dieu. Et il y a des églises, récemment, j'ai été en contact avec quelqu'un qui a été blessé, mais à mort, qui a fréquenté une église qui en y en est sorti en morceaux à cause de leur étroitesse d'esprit. Et eux autres, en tout cas, je pourrais vous en parler longuement parce que j'ai assisté dans une telle église, c'est même pas au Québec, OK? Mais honnêtement, moi, j'ai dit à la personne, ces frères et ces sœurs-là qui t'ont blessé à cause de leur façon de voir les choses, ils le faisaient tous parce qu'ils aiment le Seigneur et qu'ils voulaient la gloire de Dieu. Mais ils pensaient qu'en appliquant certaines règles très strictes, qu'on va parler de légalisme ici, que ça allait honorer Dieu. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas co correct qu'est-ce qu'ils ont fait ou la façon qu'ils agissent, mais clairement, leur motivation est pure. Mais s'ils avaient été peut-être plus sensibilisés, peut-être instruits, mieux comprendre qu'est-ce que Dieu veut vraiment pour leur vie, peut-être que ça aurait été différent puis qu'il n'y aurait pas eu autant de morts en arrière qu'ils auraient laissé sur le bord du chemin. Vous comprenez? Alors, en passant, c'est pas une mauvaise idée de réfléchir, d'en prendre note. Et quelqu'un Quelqu'un m'a rappelé récemment que mon beau-père avait dit quelque chose que lui-même avait sûrement pris d'ailleurs. Il avait dit, tu sais, on est, mettons, 150, puis on pense tout pareil. Mais probablement qu'il y en a une grande majorité de ces 150-là qui pensent même pas, point. Comprenez-vous? Ça se peut pas. On peut pas tout penser pareil. Et la Bible nous exhorte à plusieurs égards d'avoir du respect pour ceux qui ont des convictions ou des opinions différentes sur certains points que vous pensez que c'est ça la vérité et vous avez peut-être raison. Mais fondamentalement, ça se peut-tu que ce soit vous des fois qui vous trompiez et que les autres aient raison? Puis là, je ne parle pas comme Église, je parle individuellement. Et si c'est un message, je l'ai donné chez nous, là. Mais comme on dit, si le chapeau te fait, tu le mets. Il y a aussi les mêmes. Pardon, hey, ça n'a pas de bon sens. Je pense que je finirai pas la journée. Aussi avoir les mêmes sentiments, partager les mêmes peines. On doit souffrir avec ceux qui souffrent. Et c'est important. Puis il y a un verset dans l'Épître aux Hébreux que j'aime beaucoup qui parle. Non, je vais attendre. Je vais le citer un peu plus loin. Excusez-moi. Être connecté avec nos frères et sœurs, c'est un moyen d'être béni, de se réjouir avec ceux qui se réjouissent, de pleurer avec ceux qui pleurent. Mais ça, c'est littéral, hein? C'est vraiment important, c'est de base. Un autre point, c'est d'être rempli d'amour fraternel. Vous voyez, c'est tout en relation avec les autres. Et ça, c'est très concret. Et l'amour fraternel, c'est un amour désintéressé, un amour qui donne sans attendre de recevoir. Il y a quelqu'un récemment avec qui j'ai eu une discussion et la personne, c'est une vraie Mère Teresa. Elle est peut-être même pas chrétienne, là, la personne, mais Mère Teresa, là, elle aide tout le monde, est fine avec tout le monde, est vraiment dévouée, vraiment dévouée. Mais récemment, en lui parlant, elle me dit qu'elle avait voulu aider pour. Je vais dire le mot un peu comme pas se mêler de ses affaires, tu sais, dans une autre famille. Puis là, elle était frustrée. Et là, je me suis dit, écoute, au fond, tout ton dévouement, c'est pour avoir la capacité de toi-même gérer des affaires dans cette gang-là. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça n'a pas de l'air, là, à vous voir les faces, là. Mais l'idée que, tu sais, mettons, moi, je me dévoue, je suis gentil avec Mario, je suis gentil avec Mario. Et à un moment donné, Mario me fait un reproche. Mais là, c'est pas correct, Mario. Non, non, il peut me faire un reproche. Pas parce que je suis dévoué envers lui qu'il n'a plus le droit de dire quoi que ce soit, comprenez-vous? Alors, c'est ça l'amour fraternel. Chez nous, on a une sœur, j'espère que ce n'est pas comme la Mère Teresa que je vous parle, mais chez nous, on a une sœur qui n'est pas riche, qui reste même un peu loin et qui a à cœur d'aider les frères et sœurs de l'Église qui ont besoin de nourriture. Alors, on a même acheté un congélateur pour mettre à l'église et elle fait des plats et puis elle les accumule. Puis quand que quelqu'un qui a un besoin, tu sais, c'est pas nécessairement des gens pauvres qu'on aide. Tu sais, mettons, je sais pas, moi, ta femme est à l'hôpital, tu as 3 enfants chez vous. C'est très apprécié d'avoir quelques sœurs qui nous amènent des plats. Alors, elle a fait ça. C'est, elle a comme développé un ministère. Et moi, je trouve que ça, c'est de l'amour fraternel, sincère, concret, qui fait en sorte que il y a plein de gens qui participent à ça. C'est sûr qu'elle ne fait pas tout seule, mais c'est elle qui pilote ça. C'est elle qui a eu à cœur de faire ça. Et moi, j'appelle ça de l'amour fraternel vrai et sincère. Et on a besoin de ça dans les églises parce qu'il faut bien manger de temps en temps. Hein? Oups, excusez. Et boire. Une autre affaire aussi, c'est d'être rempli de compassion. Soyez bon. Et ça, le terme ici est très fort. C'est littéralement les tripes dont il est question. Tu sais, quand ça te fait mal en dedans à cause de problèmes. Denis Simard, est-ce que quelqu'un connaît Denis Simard? Vous savez qu'est-ce qui est arrivé à Denis? Un accident qui fait en sorte qu'il est paraplégique maintenant. Bien. Quand on pense à lui, moi, en tout cas, tu sais, ça me fait mal. Puis en plus, c'est arrivé en moto, puis moi, j'ai un frère qui me prête sa moto de temps en temps, puis ma femme, elle n'aime pas ça, tu sais. sais, ça, j'ai envie de vivre avec lui ce qu'il vit parce que sa vie est complètement bouleversée. Il ne marchera plus jamais, ce gars-là. OK, mais ben, la compassion, c'est ça. C'est vraiment d'aller jusque-là. Et justement, Hébreux 13, que j'avais envie de citer tantôt, 13, verset 3, ça dit: Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez vous-même prisonnier. Souvenez-vous des maltraités comme vous aussi, ayant un corps et subissant aussi potentiellement de la souffrance. Alors, la compassion, ça ressemble à ça. Une autre affaire aussi, c'est d'être rempli d'humilité. En réfléchissant à ce texte, à cette vérité, rempli d'humilité, j'ai réalisé à quel point l'humilité est très pratique. Parce que l'humanité, l'humilité va favoriser des bonnes relations. Écoutez, il y a quelques textes là qu'on peut juste regarder brièvement ici. Sophonie 2, rechercher l'humilité. Alors, ce n'est pas d'hier qu'on est recommandé de chercher l'humilité. Ou encore dans Proverbe, hein, l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Ou encore, revêtez-vous d'humilité, dans 1 Pierre 5, un peu plus loin. C'est ça, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et, oups, excusez. Écoutez, imaginez un conflit entre vous et une autre personne, chrétienne ou pas, c'est pas important, le même principe s'applique. Et que l'orgueil vous fasse dire, ben, regarde, lui, il m'a dit telle affaire, puis moi, c'est bien de valeur, mais tant aussi longtemps qu'il ne viendra pas s'excuser ici, devant moi, ben, ça va être fini entre nos deux. C'est-tu l'humilité, ça? Pensez le contraire. Quelqu'un vous a fait quelque chose et vous allez le voir, puis vous lui dites, écoute, je pense que je n'ai pas été correct avec toi. Moi, j'étais pas chez nous, il y a un conflit là, entre deux personnes et la personne a été les deux personnes ont été, bien, la personne qui a péché, elle a été correcte. Elle pensait qu'elle faisait bien de le faire, comprenez-vous? Mais ça a fait, c'est la catastrophe, mon ami, nucléaire. Alors, par humilité, si on avait dit simplement, excuse, mais t'sais, moi j'étais sincère, je pensais que je faisais bien de dire ou faire telle chose et je l'ai pas fait. Tu le vois bien. Puis là, je vois les conséquences et j'en suis franchement désolé. Peut-être ça aurait été réglé. Comprenez-vous? Là, la personne a quitté l'Église. Comprenez-vous quand je dis un tsunami ou une attaque nucléaire, là? C'était vraiment ça. Pour une histoire qui aurait tellement pu être différente comme solution. Toutes les querelles. Et Proverbe, je cite Proverbe dans version sommaire, toutes les querelles proviennent de l'orgueil, mais ceux qui sont sages acceptent les conseils. Alors moi, je pense que l'humilité, c'est un passe-partout pour éviter les conflits et en tout cas, certainement, pour les régler. Alors, sommes-nous des champions dans l'humilité? Pierre dit d'être rempli d'humilité. Alors, je pense que on a tous du travail à faire. Alors, comment être béni et épanoui? Bien, deuxième point, c'est si tu veux être béni, tu dois avoir la bonne réaction. Ne rendez point le mal pour le mal ou injure pour injure. Moi, j'ai un petit problème, une nature pécheresse, et ce n'est pas ma tendance naturelle. Êtes-vous dans la même équipe que moi? Alors, déjà le reconnaître, c'est déjà un point important. Puis le reste du verset dit, bénissez. Ouais, gars, je suis bien prêt de t'oublier, mais de bénir, par exemple, ça, je ne suis pas sûr. On est-tu honnête? C'est quoi qu'il y a dans. Tu sais, moi, là, je suis chrétien depuis 50 ans, puis je ne me permets pas de dire certaines choses des fois. Je sais que ce n'est pas correct. Casse de bain, je le pense des fois. Alors, je dois lutter avec ça parce que c'est pas si facile que ça. Soyons honnêtes. On lutte avec le péché. On devrait réagir en bénissant. Et clairement, la barre est haute. On le reconnaît. Mais c'est ça notre objectif. On veut être là. Et si on veut être là, on a plus de chances d'être correct que si on n'a pas l'objectif du tout. Tu veux être béni? Troisièmement, tu veux être béni, bien, tu dois avoir les bons standards. Et là, l'apôtre Pierre, à partir du verset 10, il va citer un texte qui a quand même 1000 ans avant Jésus-Christ. Hein. Il cite le psaume 34. Et c'est déjà un standard établi. Et là, il dit, tu veux aimer la vie, tu veux être heureux, bien, voilà qu'est-ce que tu dois faire. Un, préserver ta langue. Préserver ta langue. Jacques nous dit que la langue peut faire énormément de mal et on parle de feux de forêt à tous les jours ces derniers temps. Bien, vous savez que ça prend juste un éclair parfois ou un campeur distrait et il met le feu puis ça couvre des kilomètres et des kilomètres parce que le feu, comme Pierre dit, ou Jacques, en fait, qui l'a dit dans son épître, la langue, c'est vraiment un mal terrible, un feu. Il y a le mal qu'on dit, mais il y a le mal qu'on pense. Et moi, le chrétien, je pense que sa lutte ou son combat ou sa victoire commence dans son cœur. Elle ne commence pas. « Ah, j'y ai pas dit! » Écoute, Jeff Lorrain, qui faisait l'heure de la bonne nouvelle avec moi, il dit, « Ouais, c'est bien beau, là. C'est comme, mettons, tu vomis, mais tu fermes les dents pour pas que ça sorte. » Ben oui, mais tu sais, excusez le miage. Mais honnêtement, c'est ça des fois. On s'en va au Kentucky tantôt. Qu'il s'éloigne du mal, ça, c'est un autre. Et puis, l'image est très forte ici. C'est comme donner un gros coup de volant. Le terme, là, c'est drastique. T'sais. S'éloigner du mal, c'est pas on va faire attention, on va passer à côté. Non, non, tasse-toi de là, mon ami. T'sais, c'est comme très, très fort comme expression ici que Pierre utilise. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Et là, il y a vraiment encore ici une intensité dans le texte. Et j'aimerais vous dire, mes frères, mes sœurs, que ce qu'on doit poursuivre, ce ne sont pas ceux qui nous ont offensés, mais la paix. Pas de réaction ici. On ne doit pas poursuivre ceux qui nous ont offensés. On doit poursuivre la paix. Quatrième point, c'est tu veux être béni. Mais tu dois savoir ou tu dois te rappeler ou tu dois tenir compte que Dieu te voit. Ça dit, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Alors, ce verset-là, ce n'est pas l'idée que Dieu nous check comme un policier qui est caché en arrière du stop pour nous arrêter. Ça t'arrive souvent, frère. Comprenez-vous, ce n'est pas dans ce sens-là que Dieu nous check pour nous pogner. Non, c'est un regard favorable que Dieu a envers ses enfants. Il ne nous check pas dans le sens, tu sais, ses yeux, on a parlé, c'est toi qui as lu ça matin, les yeux, l'œil, en tout cas, bref, ça a été mentionné. Mais c'est pas négatif, au contraire, c'est très positif. Et quand ça dit « car les yeux du Seigneur sont sur les justes », le juste ici est opposé à celui qui est incroyant. Le juste ici, c'est, on va dire, celui qui craint Dieu et qui marche selon la justice, même s'il n'est pas parfait, qui est opposé à ceux qui ne craignent pas Dieu et qui ne sont nécessairement pas de vrais, d'authentiques croyants. Mais qu'est-ce que je trouve intéressant, pour ne pas dire dramatique, c'est ce qui suit, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Dieu haït le péché. Et Quand on ne marche pas selon sa volonté, lorsqu'on défie les lois de Dieu, qu'on est conscient, qu'on sait qu'on n'est pas correct, j'allais dire, qu'on se fout de Dieu d'une façon ou d'une autre, qu'on ne veut pas vivre pour lui, ça dit, la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Je vous ai parlé ce matin au culte de sainteté. Mais Dieu est saint. Puis à un moment donné, là, Dieu, là, il n'est pas bonasse, comprenez-vous? Tu sais, il y en a des gens qui sont bonasses, qui sont bons, puis j'en ai vu souvent, j'ai rencontré des gens qui étaient très bons, très bonasses, jusqu'à temps qu'ils ne soient plus capables, puis qu'ils pètent leur coche, puis qu'ils disent, tu t'approches plus de moi, mon homme. Tu comprends? Bien, ça, ce n'est pas une bonne idée. Alors, Dieu, là, c'est sérieux. Le mal, quand on sait qu'on ne fait pas ce qu'on doit faire, qu'on vit dans le péché, qu'on a une attitude, je parle de non-croyants, la face du Seigneur, c'est pour ça que quand je prêche l'Évangile, je veux que les gens sachent qui ont un problème. Dieu est saint, toi tu ne l'es pas, puis c'est sa colère qui est sur toi, mon ami. C'est ça la vérité, c'est ça l'Évangile. Puis ce verset-là le confirme encore une fois. Alors, comment ne pas être ébranlé ou comment être épanoui dans un monde hostile ou comment ne pas être ébranlé dans un monde hostile? Bien, l'apôtre va nous proposer d'être passionné pour le bien. C'est la première chose qui nous encourage, hein? Qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? C'est une question rhétorique qui normalement exige une réponse négative, dans le sens, bien, qui va te faire du mal si tu fais du bien? Alors, en principe, bien, il n'y a pas personne. T'sais. Moi, je veux dire, je n'ai jamais été persécuté parce que je suis chrétien. Honnêtement, je n'ai jamais été persécuté. Bon, je me suis fait envoyer promener une couple de fois, mais t'sais, ça ne m'a jamais atteint physiquement. T'sais. Mais au fond, Pierre, nous, on sait très bien que ce n'est pas toujours vrai, que ce n'est pas un principe absolu. La preuve, c'est qu'à la suite du verset, il a dit carrément, on peut pas, on va souffrir comme chrétien. Et puis, il dit que tant qu'à souffrir, bien, tout simplement de souffrir pour les bonnes raisons, plutôt que souffrir parce que tu es un peu bizarre. Il y a des chrétiens qui souffrent parce qu'ils sont bizarres, savez-vous ça? Ils ne souffrent pas parce qu'ils sont chrétiens. Ils souffrent parce qu'ils sont bizarres. Ils souffrent parce qu'ils ne sont pas habiles. Il y a une dame chez nous qui est arrivée de Gatineau avec son mari. Quand qu'elle a entendu que son mari s'est converti, elle capotait parce que son frère, à elle, s'était converti des années auparavant. Et elle le fuyait comme la peste parce que a dit, il était maladroit, comme c'est pas possible. Il nous a tous éloignés de l'Évangile, même s'il était bien intentionné. Alors, des chrétiens totaux, tata, ça existe. Alors, être persécuté pour la justice ou être persécuté parce que tu es malhabile, c'est deux choses. Et si tu as des problèmes avec tes relations, parce que tu t'as parlé de Dieu, puis que le gars ou la fille, elle veut plus te parler, puis elle s'éloigne de toi, ça se peut-tu que tu aies trop insisté? Ça se peut-tu que tu aies été malhabile dans ton propre témoignage, bien intentionné, certes, mais franchement malhabile? Alors, comprenez-vous ce que je suis en train de dire? C'est quand même, je suis sensible à ça. Et comme Martin Lébreux avait dit chez nous une fois, il dit, je ne sais pas si j'ai honte du Seigneur, mais des fois j'ai honte des chrétiens, par exemple. C'est intéressant. Tu dois accepter de souffrir. C'est à verset 14, verset 17 dans le texte. Comme on vient de le voir, être zélé, ça n'évite pas nécessairement la souffrance. Et il faut pas se laisser troubler par ça. C'est possible, Pierre dit, de souffrir parce que c'est la volonté de Dieu dans ta vie, que ça fait partie de son plan. Puis moi, je pense honnêtement qu'on est en train de s'approcher de plus en plus de temps de plus en plus difficiles. Avec les modes d'aujourd'hui, les valeurs d'aujourd'hui, vous avez entendu à Québec le Centre des congrès où le gouvernement a dit non parce que ceux qui étaient là, c'était des pro-vie plutôt que des pro-choix. Puis là, le gouvernement du Québec, on est pro-choix, nous autres. Ah oui? Tu es tellement pro-choix que tu ne nous laisses pas avoir un autre choix, toi. T'sais, mais là, il y a des gens qui. T'sais, je pense que ça va peut-être se replacer parce qu'il y a une mise en demeure qui a été faite. Mais tu sais, en attendant, les valeurs là, du monde, comprenez-vous qu'on n'est pas dans, on rame pas dans, on rame à contresens, d'autres là. On n'est pas dans le courant, mais malheureusement, des fois, notre chaloupe, elle pogne le courant un peu, là. T'sais, laissons-nous pas faire, t'sais. Ramon, puis on a besoin de zèle pour le faire, encore là, d'une façon respectueuse et équilibrée. Vous allez voir dans une minute. Tu dois être attaché au Christ, mais sanctifié dans vos cœurs, Christ le Seigneur. Alors, dans ce contexte, c'est d'accorder la place principale à Christ, d'accepter de faire sa volonté en toutes choses, même si sa volonté est que nous souffrions pour notre foi. Sanctifiez dans vos cœurs, nous dit le texte. Et moi, ça me fait penser au prophète Daniel, qui avait décidé dans son cœur de ne pas se souiller avec les mets du roi. Hein, vous connaissez le début du livre de Daniel. Et moi, je pense qu'on va pouvoir résister à la tentation, résister au monde en étant décidé dans notre cœur, un, deux, d'être fondé dans la parole. Est-ce que vous savez pourquoi vous croyez ceci ou cela? Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous êtes fondé quand on vous demande raison de l'espérance qui est en vous? Est-ce que vous avez comme réponse, ben là, c'est toujours ce qu'on a entendu dire? Oui, mais il y a une méchante gang qui ont juste cru et pratiqué ce qu'on a toujours entendu dire. Ils étaient dans le champ bien raide. Alors, c'est important d'être fondé. Le pourquoi je le crois? Parce que c'est écrit tel et tel principe dans la parole. Et à l'Assemblée à Saint-Jean, là, ça fait 40 ans qu'on existe maintenant, parce qu'on était à Sainte-Foy à l'époque, et on a parti un groupe à Saint-Jean, ça fait 40 ans, et on a changé plusieurs affaires par rapport. On avait fait au début un copier-coller, puis on a changé des affaires, parce qu'on a toujours été voir pourquoi qu'on faisait ça. Et c'était quoi le principe qui nous faisait faire ça? Et à cause, basé sur ça, on a fait des ajustements au fil des années. Parce qu'on faisait des bonnes choses, mais on s'est aperçu qu'on focussait sur la bonne chose qu'on faisait plutôt que sur le principe qui avait fait faire à l'époque, sans doute, la bonne chose. J'en ai-tu perdu une coupe, si? Mais c'est vraiment l'idée d'être fondé, l'idée de croire des choses qui sont basées sur la parole de Dieu, qui ne sont pas basées sur une tradition. Tu sais, Jésus, il a démoli les pharisiens parce qu'ils prenaient leur tradition au même niveau que la parole de Dieu. Est-ce que vous ne pensez pas que nous aussi, on est en danger de faire exactement le même péché? C'est clair. C'est clair. Alors, il faut toujours s'examiner pour voir si on est bien branché avec les vérités de la parole. Donc, justement, j'anticipe, tu dois être équipé pour défendre ta foi. C'est ce que je suis en train de dire. Et là, défendre ta foi sur ce qu'elle est basée. Mais là, avec humilité, douceur et respect. Quelqu'un a déjà dit, quand tes arguments ne sont pas bons, tu cries plus fort. Alors, quand tu témoignes, as-tu tendance à crier? Quand je dis crier, là, tu sais, te fâcher un peu, là? C'est peut-être parce que tes arguments ne sont pas forts. Mais si tu dis gentiment, avec douceur, respect, ce que tu crois et pourquoi tu le crois, combien de personnes sont venues à l'Évangile parce que la personne répondait toujours en montrant des textes des Écritures? Alors, comme un vieux chrétien m'avait raconté, le gars qui parlait, qui venait le visiter, en fait, sa famille, c'est Fernand Saint-Louis, pour ceux qui le connaissent, il disait tout le temps, le monsieur, c'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Alors, lui, il défendait vraiment bien sa foi en citant les Écritures, en montrant dans la parole ce qu'il en est. Tu dois garder une conscience pure, ça c'est un autre point. Puis là, je n'ai jamais su c'est à quelle heure je finissais ici. J'espère qu'on va finir en même temps. Sérieux, normalement, c'est quoi? Et 20? OK. Je vais peut-être avoir du temps supplémentaire, mais c'est pas grave. Hein? Ah, c'est ça, mais tu sais, des fois, je me dis peut-être qu'il coupe. Tu sais, plus que tu fais du temps supplémentaire, plus qu'il coupe, le don. Je blague. Pardon. OK, tu dois garder une conscience pure. Encore là, je ne veux pas élaborer trop, mais une conscience pure, ce n'est pas quelqu'un qui ne pêche pas. C'est quelqu'un qui confesse son péché et qui a une communion avec Dieu. Puis pensez à votre relation avec votre femme, votre conjoint, conjointe, pour ceux qui en ont. Mais tout le monde comprend ça. C'est même un ami, ça peut arriver. C'est que, est-ce que vous êtes en bon terme avec votre conjoint, conjointe? Et si vous n'êtes pas capable de vous parler, c'est parce qu'il y a eu un froid et ce froid-là n'a pas été réglé. Lorsqu'on commet une faute envers notre conjoint, conjointe, on s'excuse, on demande pardon et à nouveau, la relation est rétablie. Alors, avoir bonne conscience, c'est d'avoir toujours cette relation avec Dieu rétablie systématiquement, non-stop. Et c'est ça, avoir bonne conscience. OK? Alors, avec Dieu, c'est comme ça. Est-ce que j'ai bonne conscience? Est-ce que je suis gêné de m'approcher de Dieu quand je suis seul dans ma chambre avec lui? Ou bien je me sens tellement tout croche que je n'ai pas bonne conscience? Puis franchement, c'est grave de ne pas avoir bonne conscience parce que tu es déconnecté. Et c'est peut-être pour ça, des fois, que des chrétiens ne sont pas si forts que ça pour parler de l'Évangile parce qu'ils n'ont pas bonne conscience. Alors, ils vont de leur propre chef et le Saint-Esprit, il reste à la maison. Il ne peut pas rester à la maison, mais en tout cas, on se comprend. Comment être épanoui malgré la souffrance? Bien, ça, c'est les versets 18 à 22. Bien, en considérant l'exemple de Jésus qui, lui, a souffert pour des injustes, lui juste pour des injustes. C'est des beaux textes qu'on lit au culte. Et on fait bien de lire ce genre de texte-là parce que ça nous montre ce que Jésus a fait. Mais l'apôtre Pierre, ici, il est en train d'utiliser l'exemple de Christ, le juste, qui a souffert pour des injustes, et il nous invite à avoir la même attitude face à l'injustice. C'est ça l'argumentation de Pierre. Nous, on le prend pour s'édifier puis montrer qu'est-ce que Christ a fait, puis on fait bien. Mais Pierre est en train d'utiliser l'exemple de Christ pour nous montrer comment on fait. Et comme je dis tantôt, des fois, on est loin de ça. Et il y a tout un problème où on dit ici, le verset que j'ai lu, là, 19, que Jésus a été prêché aux esprits en prison. Beaucoup de commentateurs disent c'est le verset le plus difficile du Nouveau Testament. Alors, on va régler ça dans 2 minutes, OK, un matin? Il y a deux possibilités, je pense, qui ont de l'allure. Je vous les partage très brièvement. La première, c'est qu'effectivement, Christ est allé proclamer, non pas prêcher, mais proclamer sa victoire aux esprits en prison, c'est-à-dire aux démons qui ont gravement péché au temps de Noé en s'alliant à des femmes. MacArthur, dans ses commentaires sur l'Épître de Pierre, développe, je ne sais pas si c'est dans l'Épître de Pierre seulement, mais MacArthur développe cette idée assez élaborée. Pour dire, ouais, ça quand même, ça là, c'est une possibilité. Puis la deuxième possibilité, à mon avis, parce qu'il y en a 10, la deuxième possibilité que je trouve la plus, une des potables, c'est qu'il s'agit de l'Esprit de Jésus avant son incarnation, qui prêchait aux hommes par la bouche de Noé, qui avait été rebelle et incrédule à la prédication de Noé. Et il y a certains traducteurs de Bible qui ont adopté cette position-là. Alors, c'est tout, c'est 2 minutes, c'est fini. Je passe à un dernier point. En respectant notre engagement, le baptême devrait. Moi, là, ce soir, en passant, on a un baptême à Saint-Jean. Deux, madame, un monsieur et une dame ukrainienne qui sont venus avec leur fils, déjà chrétien. Eux, on pensait qu'ils étaient chrétiens. On a commencé une formation pour les baptiser. On s'est aperçu qu'ils n'étaient pas sauvés. On fait le cours Bonne Nouvelle, Bruno Coulombe, pour ceux qui le connaissent, a fait le cours Bonne Nouvelle en ukrainien avec traduction, puis toute une patente. Ils ont été sauvés, puis ce soir, ils se font baptiser. Alors, si vous voulez venir à Saint-Jean ce soir, il y a des bons billets encore debout. Non, sérieux, si vous êtes bienvenus, là, je ne pense pas que la salle devrait être trop pleine, bien que les dimanches matins, ça commence à mal aller à cause du grand nombre de personnes. Alors, le baptême, c'est un engagement extérieur pour manifester ce qui s'est passé à l'intérieur. Mais c'est un peu, pour moi, quand je vois un baptême, ça me rappelle mon engagement que moi j'ai pris, là, 50 ans. Pour suivre le Seigneur, comme une noce, quand j'entends les vœux, je suis broyard, je suis pas capable de pas verser de larmes. Parce que je me rappelle quand moi, j'ai pris cet engagement envers la femme que j'ai. Et le baptême, pour moi, c'est un retour en arrière pour me rappeler de l'engagement que moi aussi j'ai pris, puis que maintenant je veux être conséquent avec cet engagement-là. Et l'apôtre Pierre nous dit que c'est l'engagement de quoi? D'une bonne conscience envers Dieu. Autrement dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux marcher avec toi. Je veux avoir bonne conscience. Pas jamais péché, je vous l'ai dit, mais bonne conscience. Je veux que ma relation, qu'il n'y ait jamais, jamais, jamais rien qui m'empêche de te parler, qui m'empêche d'avoir la joie, la paix dans mon cœur, parce que je suis en communion, comme mon frère, M. Lachance, a dit ce matin. Il est content. Ben, c'est ça, être en communion. Et c'est ça qu'il faut faire. Et puis, en passant, le déluge que Pierre parle ici, c'est tellement, mais tellement une belle image de l'Évangile. Tu sais, le jugement est tombé sur l'arche et ceux qui étaient à l'intérieur de l'arche ont été épargnés. Il n'y en avait pas beaucoup, 8 seulement. Et ça, c'est un chiffre qui peut parfois nous encourager, nous autres, lorsque le succès de l'Évangile est, on aimerait ça, un réveil. Je commence cette semaine un cours Bonne Nouvelle avec 5 jeunes personnes de moins, ben de 18, 20, 22 ans. Il y en a une exception qui a 29 ans. Et je suis tout excité parce que je me dis, est-ce que le Seigneur est en train de faire un réveil comme moi, quand j'ai été sauvé dans les années 70, j'aimerais tellement ça. Mais aujourd'hui, c'est peut-être plus souvent un petit 8. Hein? Ce n'est pas des grands rassemblements, puis des foules à la Billy Graham qui descendent, puis qui disent, oui, Seigneur, ça serait cool, mais ce n'est peut-être pas le temps de Dieu. Mais la question ce matin, est-ce que je suis entré dans l'arche qui est Jésus-Christ? Est-ce que le jugement de Christ, de Dieu sur Christ, est passé et que moi, j'ai été épargné? Et si je ne suis pas dans l'arche, on va périr. C'est sûr qu'on va périr. Et il y a quelqu'un qui avait imaginé un jour que dans l'arche, la porte de l'arche, il y avait plein de bois brisés parce que les gens s'étaient agrippés, ils avaient voulu entrer. Mais c'est qui a fermé la porte au déluge? Dieu. Moi, j'ai vu un film, à un moment donné, j'ai dit, ce n'est pas les chrétiens qui ont fait ça, c'est Noé qui décide de fermer la porte. Non, c'est Dieu qui met un terme à la grâce. Et si vous n'êtes pas encore entré dans l'arche, c'est encore temps aujourd'hui de le faire. Mais un jour, ça va être trop tard et éternellement trop tard. Alors, pour conclure, si je veux être béni, veux-tu avoir une vie épanouie? D'abord, assure-toi d'être entré dans l'arche, parce que si tu n'es pas entré dans l'arche, ton épanouissement va durer jusqu'à l'épitaphe du cimetière. Comme Steve Jobs avait dit, ça ne sert à rien d'être le plus riche du cimetière. C'est vrai, il a dit ça. Et il était assez lucide, hein? Mais ose vivre en fonction des autres. Tu veux être heureux? Occupe-toi des autres. Et je ne suis pas en train de dire, pense à ce que les autres pensent de toi. Ça, c'est la pire affaire que tu ne peux pas faire. Mais vis en fonction d'un dévouement pour les frères et les sœurs. Et le témoignage que ça va donner, Jésus a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit plein d'affaires. Jésus a dit qu'à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et ça, c'est la porte d'entrée pour que les gens disent, hey, veux-tu même dire, c'est quoi ton affaire, toi? Moi, je ne pense pas qu'il faut toujours attendre que quelqu'un nous pose la question, là. Il faut être un petit peu plus intentionnel que ça, mais quand même. Puis ne te laisse pas ébranler par l'hostilité du monde des épreuves, de la souffrance que tu vas éventuellement souffrir. C'était au programme. Avez-vous lu le programme? C'est au programme. C'est marqué, puis ce n'est pas un petit caractère en bas de la feuille. Quand on se convertit au Seigneur, Jésus l'a dit, vous allez souffrir, j'ai été persécuté, vous serez persécuté. Ce n'est pas une vie facile à laquelle le Seigneur nous appelle. Et finalement, marche devant Dieu en toute humilité, puis en suivant cette recette-là, tu vas avoir une vie épanouie et bénie. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu qui l'a dit. On prie. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour l'encouragement que tu peux nous apporter à travers ces textes si précieux, Seigneur. Puis j'implore ta bénédiction sur cette assemblée. Seigneur, tu connais les désirs dans les cœurs qui veulent t'honorer, qui veulent te servir, qui veulent marcher, Seigneur, dans tes voies. Et Seigneur, je prie que tu donnes ta grâce à chacun. Je pense aussi aux responsables de cette Église, Seigneur, accompagne-les particulièrement, puisqu'ils donnent le ton. Et c'est tellement une grande responsabilité, Seigneur, que tu as confiée à des hommes. Alors j'aimerais, Seigneur, implorer sur eux une bénédiction toute particulière. Puis je prie ça dans le nom de Jésus. Amen.